pertinente, intelligente, énergique et souriante. Voici l'effet. L'effet Normando. Réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
10h05, je vous souhaite un très bon jeudi. Pour notre 10 à midi aujourd'hui, je vous propose trois sujets. Retour évidemment sur l'annonce d'hier du ministre de la Santé, Christian Dubé. Comme vous le savez, il a choisi de reporter cette date butoir au 4 novembre. Cette date butoir qui référait à la vaccination obligatoire pour les travailleurs du réseau de la santé. Est-ce que vous croyez que les récalcitrants vont se faire vacciner? Est-ce que vous croyez que cette date butoir, ce report de cette date butoir va faire la différence dans la capacité qu'a le gouvernement de convaincre les récalcitrants de la vaccination d'aller se faire vacciner? Ce sera notre premier sujet. En deuxième heure d'émission, je vous propose un thème sur les motocyclistes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce mardi, triste bilan, 3 motocyclistes ont perdu de la vie, oui, dont 2 dans la trentaine. Ça s'ajoute, ces 3 décès, un bilan, un triste bilan déjà sur les routes du Québec pour nos motocyclistes. Quelle est votre attitude face aux motocyclistes lorsque vous retrouvez en leur compagnie sur les routes du Québec ou encore sur l'autoroute. On va essayer de comprendre pourquoi un triste bilan comme celui-là. Et en terminant, un article de Francis Weiss dans la presse qui a retenu mon attention ce matin. Il semblerait, chers auditeurs et auditrices, que nous sommes dans le champ parce que le journaliste fait une démonstration s'appuyant sur une étude publiée par Luc Godbout, fiscaliste à l'Université de Sherbrooke. Il semblerait que c'est payant de travailler à la retraite. On a toujours cru jusqu'à maintenant que travailler à la retraite, là, faire des heures d'appoint à sa retraite, c'était pas si payant que ça finalement, que la fiscalité jouait en défaveur des retraités, mais il semblerait que la réalité est tout autre. Alors on va tenter de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une nouvelle comme celle-là. Je vous partage les coordonnées de l'émission comme d'habitude, texto 98 98.5 et le courriel nathalie@98.5fm.ca. On plonge, si vous le voulez bien, oui, tout de suite, dans ce premier sujet. Est-ce que vous croyez que les récalcitrants de la vaccination vont aller se faire vacciner après cette annonce du ministre Christian Dubé? On commence ce segment avec Daniel Laroche. Il est représentant syndical CSN pour les travailleurs et travailleuses du CIS de la Montérégie-Est. Bonjour à vous, Daniel.
Bonjour, Mme Normando.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Tout d'abord, est-ce que vous faites partie de tous ces représentants syndicaux qui se sont montrés soulagés de la décision du ministre de reporter la date butoir?
Bien, effectivement. Le CIS de la Montérégie-Est fait pas bande à part sur les possibilités de bris de service qu'il aurait pu y avoir ici. Donc, c'est un soulagement pour la population, je vous dirais. Sur la base que, ben, tu sais, quand on décide de travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux, ben, c'est pour donner des soins à la population. Puis, ben, ultimement, si on est en bris de service, ben, on remplit pas cet objectif-là, cette mission-là.
Ah, ben là, c'est intéressant. Vous venez de dire, lorsqu'on travaille dans le réseau de la santé, oui, j'entends votre téléphone. Lorsqu'on travaille dans le réseau de la santé, vous dites, c'est pour donner des services. Mais à ce moment-là, comment justifier des travailleurs, vos membres qui ne sont pas vaccinés? Ils sont là aussi pour donner des services, mais ils créent de l'insécurité dans le réseau auprès des malades, entre autres, et des patients n'étant pas vaccinés. Comment vous pouvez défendre ça de votre côté?
Bien, ultimement, comment est-ce que moi je peux le défendre? Rendu là, c'est un choix personnel de toutes ces personnes qui ont refusé le vaccin, peu importe le motif, que ce soit pour un motif médical ou que ce soit pour un motif de conviction ou simplement, tu sais, il y a des personnes qui, ultimement, ont peut-être pas reçu toute l'information pour les rassurer par rapport à ça, bien qu'on sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est peut-être... les décisions appartiennent à ces personnes-là de ne pas se faire vacciner. Fait que, ultimement, bon, le gouvernement a fait le choix d'aller de l'avant avec un décret pour retirer ces personnes-là du travail, donc de les retirer du travail, de ne pas leur permettre de travailler. Mais dans les membres que moi je représente là, au CIS de la Montérégie-Est, donc les catégories 2 et 3 pour le jargon, là, ultimement des personnes qui allaient nullement être vaccinées, aucune première dose, pas de COVID, c'est tout ce qui est prévu dans le décret. Ben, ultimement, j'ai 145 personnes sur 6000, plus de 6000, qui n'allaient pas être, ce qu'on pourrait dire, adéquatement protégées, ce qui représente à peu près 2,4% de mes membres. Fait que, ultimement, 2,4%, si on fait un parallèle avec la population du Québec, ben, c'est quand même un pourcentage qui est très faible de personnes non vaccinées. Fait que, ultimement, est-ce qu'on aurait pu peut-être mettre en place des mesures de protection tant pour ces personnes-là que pour ces personnes-là, pardon, que pour les personnes à qui auraient reçu des soins ou des services, ça aurait peut-être été une solution différente à celle que le ministère a préféré mettre de l'avant.
Ouais, mais quand même, vous dites 2,5% 2,4% des membres que vous représentez là, qui ne sont pas adéquatement vaccinés, vous dites c'est peu, c'est faible. Mais c'est faible, mais ça paralyse quand même le réseau parce que votre 2,4% de membres qui ne sont pas vaccinés s'ajoute aux 2, 3, 4, 5% ailleurs dans le réseau. Total tout aujourd'hui, là, il y a 22 446 travailleurs dans le réseau qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Alors ça, c'est la triste réalité. Et cette triste réalité fait en sorte que le ministre a dû prendre la décision qu'il a prise hier. Que le ministre qu'on perçoive ça comme un recul ou au contraire comme une sage décision, c'est selon. Mais est-ce que vous avez pris au sérieux le ministre dès le départ, M. Laroche, au moment où il a annoncé qu'il y aurait suspension des travailleurs non vaccinés? Est-ce que vous l'avez cru?
Ben nous, on travaillait dans ce sens-là. On a une obligation de représentation face à nos membres. Donc, nous, on travaillait en ce sens-là. On a envoyé plusieurs communications à nos membres, les personnes qui refusaient là, la vaccination, bref, qui n'allaient pas être adéquatement protégées au 15 octobre dans l'objectif de se préparer par rapport à ça. Donc, nous, on a pris le décret au sérieux, bien entendu. Maintenant, est-ce que on peut peut-être se questionner, est-ce que ça a été un bluff de la part du ministère? Rendu là, je suis pas je suis pas un petit oiseau là pour le savoir, mais ultimement, il y a eu un décret, il fallait se préparer par rapport à ça. Puis est-ce que le ministère a perdu de la crédibilité face à ça? Peut-être. L'avenir nous le dira.
Qu'est-ce que vous avez demandé? Quand vous dites on a eu des communications avec nos membres, là, vous êtes un représentant syndical, qu'est-ce que vous avez envoyé comme communication? Ou plutôt, qu'est-ce que vous avez envoyé comme information à vos membres? Est-ce que vous les avez incités à se faire vacciner? Est-ce que vous leur avez recommandé fortement de se faire vacciner?
Bien, c'est la position de la Fédération de la santé et des services sociaux que ses membres se fassent vacciner. Donc oui, ça faisait partie de quand des membres nous approchaient, on leur indiquait que c'était encore le temps de se faire vacciner. Ultimement, comme j'ai nommé, ben c'est un choix individuel. J'ai beau dire à quelqu'un de pas faire quelque chose, si en bout de ligne il veut le faire ou il veut pas le faire, ça lui appartient. Dans la finalité, nous, oui, effectivement, là, c'était là, le message qu'on lançait à nos membres d'aller se faire vacciner pour protéger tout le monde.
Qu'est-ce que, selon vous, il va se passer le 16 novembre au matin, parce que la date butoir est reportée au 15? Est-ce que vous croyez que ceux que j'appelle les récalcitrants, on peut utiliser notre expression, là, opposants à la vaccination, les sceptiques, ceux qui se questionnent, enfin bref, on a choisi ce matin le mot récalcitrant. Est-ce que vous croyez qu'ils vont aller se faire vacciner?
Il va sans doute y avoir un impact, là. Le gouvernement a fait le choix là, de retirer certaines primes qu'il y avait, notamment la prime COVID là, de 4 ou 8 % donc, il y a des personnes qui vont peut-être faire le choix d'aller se faire vacciner de ce fait. Maintenant, est-ce que ça va faire en sorte que la vaste... Ben, que les 145 membres qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner du tout vont se dire, ben OK, je vais y aller. Je suis sceptique moi-même par rapport à ça. Si la personne a fait le choix de dire, ben moi, je vais assumer que le 15 octobre, je ne travaillerai plus, ben je suis pas certain qu'à partir du 15 novembre, la forte majorité de ces 145 personnes-là vont avoir changé d'avis.
OK. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Le 16 novembre au matin, on oublie la suspension. Les travailleurs ne seront plus suspendus, ceux qui ne sont pas vaccinés. Ils vont être testés 3 fois par semaine. Est-ce que vous avez la même lecture que moi, que la suspension, on oublie ça? Il n'y a pas aucun employé du réseau qui va être suspendu sans ça. Là. On a tous compris ça. Là.
à partir de, du
16 novembre. Octobre, vous voulez... 16 novembre.
16 novembre. Ben là, j'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas entendu le ministère faire d'annonce en ce sens-là. Rendu là, la décision lui appartiendra sur, pour la suite des choses. Mais je sais qu'à partir de, si je ne m'abuse, lundi, il doit y avoir là, dépistage là, des personnes qui, lundi la semaine prochaine, là, donc dépistage des personnes qui auront refusé la vaccination et donc dépistage trois fois semaine. Pour s'assurer, dans le fond, que ces personnes-là ne sont pas porteuses là, de la COVID.
Merci beaucoup, Daniel Laroche. Je le rappelle, vous êtes représentant du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIS de la Montérégie-Est, associé et affilié à la CSN. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Pour votre bonne gouverne, chers auditeurs, sachez que, parce qu'on parle là, certains, je voyais ce matin le Journal de Montréal, le ministre qui recule, il y en a qui voient ça comme un échec, mais quand même, l'opération vaccination a porté fruit. Elle a permis, entre le 26 août et aujourd'hui, à 21 000, 15 travailleurs et travailleuses du réseau de la santé d'être vaccinés. Donc, la menace que faisait planer le ministre de la Santé a eu un effet. Il y a 21 000 travailleurs et travailleuses de la santé, soignants, non-soignants, qui sont aujourd'hui vaccinés, qu'ils ne l'étaient pas avant, que le ministre prenne sa décision, quand même. Et je veux partager avec vous, avant d'aller à la pause, parce que je veux vous entendre sur cette question, je vous lis dans quelques instants, Rock a pris soin de nous rappeler qu'un malade qui est admis aux soins intensifs atteint de la COVID coûte à peu près 12 000 $. Il dit « Comme maintenant, ce sont des non-vaccinés qui se retrouvent aux soins intensifs et qu'ils y demeurent une vingtaine de jours en moyenne, leur entêtement coûte énormément cher à la société. Ce coût s'ajoute évidemment aux répercussions sur les autres services qui sont reportés. » Merci, Rock, d'avoir partagé votre point de vue sur est-ce que vous croyez que les récalcitrants vont aller se faire vacciner après l'annonce, après le report d'hier. Vous êtes très peu nombreux à y croire, vraiment très peu nombreux à y croire. N'oubliez pas, bon alors, je vous lis rapidement, là, non, je n'y crois pas. Les récalcitrants devraient payer leur test PCR et ne pas être rémunérés pour les passer. Parce qu'effectivement, ils sont rémunérés actuellement. Le ministre, je ne sais pas si le ministre va prendre la décision de ne pas, c'est-à-dire de faire payer les tests de dépistage aux employés. Selon moi, ça serait peut-être un peu compliqué sur le plan administratif, mais peut-être qu'il n'y aura pas de compensation. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Est-ce que le ministre va être tenté de flirter avec cette idée de ne pas compenser en heure de travail, de compenser pour une heure de travail le fait d'être testé? Je sais qu'il semble la part de la population y avoir une forte pression de ce côté. On doit aller à la pause à 10h17 minutes, presque 18. 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du ministre? Est-ce que vous croyez en fait que les récalcitrants iront se faire vacciner?
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Vous êtes peu à croire que les récalcitrants de la vaccination iront se faire vacciner. Avant d'aller à Isa, je lis le courriel de Nicole. La vaccination n'est pas un choix personnel quand tu travailles dans le système de la santé. Il y va du bien collectif. Et Marc nous écrit, vous savez ce que Ronald Reagan a fait dans les années 80 avec les facteurs récalcitrants? Ils les ont tous mis à la porte et les ont remplacés. On devrait faire pareil. Oui, il y a un défi par contre, Marc. Là, il y a quand même 22 446 personnes, soignants, non-soignants, dans le réseau de la santé qui ne sont pas vaccinées. Je ne vois pas comment on pourrait mettre à la porte 22 446 personnes demain matin. Également, je vais continuer de vous lire sur le texto, mais je vais aller à Isa, si vous permettez. Bonjour, Isa.
Oui, bonjour.
Je vous écoute.
Oui, moi, je pense que ce n'est pas une victoire pour la seule raison. C'est que Christian Dubé, présentement, il veut gagner du temps parce qu'il va faire rentrer des étrangers, puis les retraités. Ces gens-là, il faut les orienter. Ça prend à peu près un mois pour bien les orienter. Puis, n'oubliez pas non plus que Christian Dubé, il avait dit que les personnes non vaccinées étaient dangereuses pour les autres personnes. Mais là, maintenant, il prolonge jusqu'au 15 novembre. Ça veut dire que les personnes qui sont plus dangereuses, ils vont être dangereux à partir du 15 novembre. Ça ne fait pas sens, qu'est-ce qu'il dit. C'est illogique.
Mais vous, Isa, je comprends, vous questionnez la décision du ministre, mais vous croyez ou vous ne croyez pas que les gens vont aller se faire vacciner?
Moi, je pense qu'il y en a, oui, d'autres, non. Mais la seule chose qu'il devrait faire pour que toutes ces choses-là arrêtent, c'est qu'à partir du 15 octobre, les personnes non vaccinées ou ont une dose de vaccin, ils respectent le 15 octobre, ils ne rentrent pas travailler. La question du peuple va vraiment reculer vraiment sous sa décision.
OK. Merci beaucoup, Isa, d'avoir appelé, partager votre point de vue. On va aller joindre Joanne. Bonjour, Joanne.
Bonjour.
Je vous écoute, ma chère.
Allô?
Oui.
Oui. Bon, je suis préposée aux bénéficiaires de la course Legault.
OK, et, bravo.
Moi, quand on m'a embauchée, on m'a obligée de refaire mon portfolio complet de vaccins pour être embauchée. Puis, bon, c'est sûr que forcé de voir que là, on avait un nouveau vaccin à prendre, je l'ai pris d'emblée parce que pour moi, c'était une obligation qui allait de soi.
Attendez, Joanne, quand vous dites on a dû refaire notre portefeuille de vaccins, est-ce que ça comprenait le vaccin contre la COVID, ça?
Pas à l'époque. Quand j'ai commencé, c'était au tout début. Le vaccin de la COVID n'était pas encore sorti à l'époque. Fait que là, il fallait faire le retour de tous les vaccins etc. Là, tous les vaccins auxquels on accède là, depuis notre enfance. Là, donc, le renouvellement là, de tous ces vaccins-là selon l'âge qu'on a. Et j'ai d'emblée accepté, j'ai même pris le vaccin contre la grippe que je n'avais jamais pris auparavant parce que je ne sentais pas le besoin, mais là, à travailler auprès des personnes âgées, je trouvais que c'était de mon respect aussi envers les autres, de me protéger et de les protéger. Donc, j'ai fait ça. Et puis, quand le vaccin de la COVID a sorti, j'ai fait mon devoir. Ce que je trouve triste, c'est de voir que certains collègues à d'autres niveaux de leur travail ne l'ont pas fait. Ça devrait être une obligation dans le domaine de la santé, point à la ligne. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, ce qu'il devrait faire, à mon avis, tant qu'à pénaliser le réseau, ce serait d'obliger tous les travailleurs non vaccinés de se présenter à leurs frais une demi-heure avant leur quart de travail pour se faire tester, et non juste trois fois par semaine. À chaque fois qu'ils vont devoir se présenter sur leur lieu de travail, une demi-heure avant, devrait se présenter, faire le test, le test, pas nécessairement à leurs frais, mais le temps qu'ils vont devoir y passer devrait être pas sur leur corps de travail, mais avant. Et une fois que le test est négatif, ils pourront se permettre de rentrer sur leur corps de travail et de travailler en toute sécurité auprès des bénéficiaires de leurs soins.
Parce que là, vous parlez d'un test à tous les jours, à chaque fois qu'un travailleur...
Oui, à tous les jours. Si c'est pour pénaliser le réseau que de dire ceux qui ne sont pas vaccinés ne travaillent pas, bien, au moins, ça serait de leur... Excusez l'expression, ça serait de leur mettre dans les dents, de dire, bien, regarde, à tous les jours que tu vas travailler, tu vas être obligé de te rendre une demi-heure avant ton travail, te faire tester. Puis peut-être que de ce côté-là, ils vont peut-être dire, ben, plutôt que de faire ça puis de perdre une demi-heure de mon temps personnel, ben je vais peut-être décider à un moment donné, forcer de voir que là, ça implique beaucoup de choses dans leur vie personnelle.
Intéressant.
De dire, ben, je vais peut-être aller me faire vacciner.
Ouais, ce que vous dites, dans le fond, Joanne, c'est que le gouvernement devrait serrer la vis encore plus. C'est
bien. Plus. Plutôt que de pénaliser le réseau de leurs services,
je comprends.
Ben,
je comprends.
moins de serrer la vis et de leur obliger des choses et de leur imposer des choses, parce que trois fois, en plein milieu de leur corps de travail, je trouve ça un petit peu, entre vous et moi, ridicule, parce que s'ils sont infectés, puis qu'ils ont déjà commencé à travailler quelques heures, puis que là, pendant leur corps de travail, ils vont faire leur test, c'est un peu ridicule, à mon avis. Donc, de se présenter une demi-heure avant leur corps de travail, de faire leur test, et là, s'ils sont négatifs, merci, tu peux commencer ton chiffre.
C'est bon.
Ça fait l'idéal.
J'aime ça, moi. J'aime ça. On va s'organiser pour que ça se rende jusqu'au ministre de la Santé. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir appelé. Puis bravo pour votre engagement auprès de nos personnes âgées, résidents des CHSLD. Bonne chance pour la suite. Marc-André nous écrit 41 ans sur texto. Ben non, ils iront pas se faire vacciner, les récalcitrants. Oubliez ça. Vous êtes pas nombreux à penser qu'ils vont aller se faire vacciner, là. C'est comme on dit, game over, là, en bon français. On va aller joindre Stéphane, ce qu'il en pense. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, je pense qu'on va se terminer avec une clause grand-père. La même chose que les femmes voilées en tant que professeurs. Là. Ceux qui sont déjà dans le domaine, ils peuvent rester comme ils veulent, mais les nouvelles ou les nouveaux qui vont rentrer, il y aura une obligation du vaccin. La clause grand-père va rentrer, ça ne sera pas trop long.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, clause grand-père?
Je pense que ça s'appelle comme ça.
Oui.
On prend l'exemple de la fameuse loi que les écoles, les professeurs ils n'ont plus le droit de porter le voile ou avec une croix, ou, etc. Mais ceux qui étaient déjà dans le réseau, ils peuvent le garder. Mais ceux qui sont arrivés après la fameuse loi, ben, ils n'ont pas le droit. Donc, c'est ça, en gros, que je crois qu'il va arriver.
OK. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir appelé. Merci. Il y a des réactions de votre côté sur la proposition de Joanne, préposée aux bénéficiaires, hein, qu'on fasse tester les travailleurs une demi-heure avant de leur quart de travail et qu'on le fasse à chaque fois qu'ils vont se présenter au travail, peut-être que ça va avoir un effet dissuasif. Par exemple, il y a un auditeur qui nous écrit « Tester 20 000 infirmières, 3 tests par semaine à 60 $ c'est 14,4 millions de $ par mois. » C'est énorme. Il faut prendre la mesure de ce que ça représente, tester nos travailleurs qui s'opposent à la vaccination ou qui ne veulent pas se faire vacciner 3 fois semaine. C'est énormément d'argent, puis du temps. Puis c'est pour ça que l'idée de Joanne est intéressante, parce que là, pour un gestionnaire, il n'y aura pas d'impact sur l'organisation du travail. On va s'organiser, Joanne, pour envoyer votre proposition au ministre de la Santé, croyez-moi. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Oui, Salim qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour à vous, Salim.
Bonjour, Nathalie, ça va?
Oui, ça va bien. Je vous écoute.
Oui, moi, je pense que le ministre de la Santé, elle a pris la bonne décision, là. Et on n'est pas dans un environnement de compétition victoire par victoire, là. Mais l'essentiel, c'est que les hôpitaux, ils sont fonctionnés toujours. Et pour les récalcitrants, moi, j'ai des amis, là, ils veulent pas se faire vacciner pour le moment. Mais moi, je pense qu'ils vont finir par le faire à cause des voyages, c'est seulement des voyages, là. Ils vont finir par se faire vacciner.
Oui. Mais attendez, Salim, dites-moi, pourquoi les gens dans votre environnement, ils veulent pas se faire vacciner? Là? C'est quoi leur peur? Ça repose sur quoi, leur argument?
Elle écoute les gens sur les Facebook, là, pour le... Nathalie, pour parler genre de finance, ça prend un spécialiste dans la finance. Pour parler de la comptabilité, ça prend un comptable. Mais pour parler métier, virologie, là, tout le monde s'improvise spécialiste. Il commence de véhiculer n'importe quoi, là. Moi, ça me fatigue, là, tu sais.
Okay.
Mais pour les travers de la santé, là, je pense que la bonne solution, c'est de rendre le test payant. Si tu payes, genre, 180 $ pour trois fois par jour, là, je pense que la poche, là, tout le monde comprend le langage de la poche. Ils vont finir pour se faire vacciner.
Ça revient, Salim, ça revient constamment. Les auditeurs nous disent, oui, il faut faire payer. Moi, je vous dis que sur le plan administratif, ça va peut-être être un peu compliqué. C'est pour ça que la solution de Joanne est intéressante, parce que avant, tu dis au travailleur, non, c'est pas trois fois, c'est à chaque fois que tu vas te présenter, une demi-heure avant ton quart de travail, tu commences à 8h, à 7h30, t'arrives, on fait ton test. Ça peut devenir embêtant pour un travailleur de la santé.
Ouais,
là, hein?
Juste 300 $ par semaine, c'est 1 200 par mois.
Oui, je sais.
Oui,
vous avez tellement raison, Salim, je suis d'accord avec vous. Je sais pas, il faudrait que, j'imagine que le ministre va évaluer cette situation. Enfin, on va l'inciter à évaluer cette option de faire payer les tests COVID de la part des employés récalcitrants. Merci beaucoup, Salim, d'avoir appelé. Très gentil à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée. Alors, le coup de bluff du ministre a permis la vaccination de plusieurs récalcitrants. Stéphane Danjou. Bien, effectivement, c'est vrai. Je le disais un peu plus tôt, là. Il y a quand même, tu sais, dans cette opération vaccination obligatoire, il y a 21 000 15 travailleurs et travailleuses du réseau de la santé, soignants, non-soignants, qui sont allés se faire vacciner à partir du moment où le ministre a dit « Ah, vaccination obligatoire, puis si vous n'allez pas vous faire vacciner, vous serez suspendu le 15 octobre. » Et là, le ministre en a ajouté une couche hier. Il a dit « Oui, on reporte au 15 novembre, mais il n'est pas question que vous touchiez à une quelconque prime. » Soit que ce soit prime COVID, que ce soit le 15 000 $ si vous revenez dans le réseau, personne n'aura accès à ça tant et aussi longtemps que vous ne serez pas vacciné. Alors voilà, c'est dit, 10h, presque 33 minutes. Je vais à la pause et on poursuit sur le sujet. Je continue de vous lire. On va accueillir Pierre Blain qui, lui, représente les usagers de la santé. Je déteste ce mot « usager de la santé ». Il faudrait ensemble qu'on trouve un nouveau mot, franchement.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando.
10h36 minutes, je veux partager avec vous un auditeur qui nous écrit sur le texto. Il s'adresse à moi, là. « Vous me tombez sur les nerfs lorsque vous traitez les pro-choix de la vaccination de récalcitrants. C'est offensant, vous faites la culture de la pensée unique. Signé Richard, professionnel de la santé. » Vous savez, ce Richard, ce qui me tombe sur les nerfs, moi, ce qui me tombe sur les nerfs, Richard, c'est ces 22 446 travailleurs du réseau de la santé non vaccinés qui, parce qu'ils sont non vaccinés, foutent le bordel dans notre réseau de la santé, insécurisent les patients puis les malades dans le réseau de la santé, créent du stress auprès des résidentes et des résidents de nos CHSLD, de nos résidences pour personnes âgées. C'est ça qui me tape sur les nerfs, mon cher Richard. Et ça me fait un immense plaisir, Richard, de partager mon point de vue avec vous. Puis merci de votre franchise. C'est exactement ce que je veux de votre part. Vous êtes en accord, en désaccord. C'est comme ça qu'on réussit à créer des débats, des échanges dans notre, dans notre société. Échanges respectueux, on s'entend. Mais je constate que c'est un débat qui polarise encore énormément. Avant d'aller à notre prochaine invité, je vous rappelle qu'on discute des récalcitrants de la vaccination dans le réseau de la santé. Est-ce que vous croyez qu'ils vont aller se faire vacciner après la décision du ministre de la Santé d'hier? Avant d'aller donc à Pierre Blain, je veux entendre Frédéric. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, je veux vous dire, à mon avis, ça va pas changer rien. Là, les non-vaccinés vont pas aller davantage. Mais il y a quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Ça rejoint un petit peu ce que M. Saline disait là avant la pause, c'est que notre ennemi, à mon avis, c'est le virus. Et là, on fait du clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés. On veut punir ces gens-là, on veut les forcer, alors que l'épidémie est sous contrôle et tout va bien. Donc, je vois pas pourquoi on s'entête et on veut absolument forcer, punir et pousser les gens à faire quelque chose qu'ils veulent pas, alors que en soi, tout va bien. Donc, je pense que ça va pas aller.
OK. Attendez, Frédéric. Est-ce que vous êtes en accord avec la vaccination obligatoire pour les travailleurs du réseau de la santé ou pas?
Moi, je suis en accord avec la vaccination, mais pas obligatoire.
OK.
On force pas les gens ici. C'est notre culture au Québec. Les gens peuvent fumer toute leur vie, puis arriver ensuite et puis se faire traiter pour le cancer du poumon. On va pas les faire payer. On va pas les forcer à faire quoi que ce soit. Donc, il faut à un moment donné accepter que les gens pensent différemment et si tout est sous contrôle, je pense que c'est ça l'objectif. Okay. On veut pas tout mettre le système de santé à terre. Ça serait vraiment pas intelligent. Okay.
Mais
Dubé avait pas le choix de faire ce qu'il a fait.
Oui, mais Frédéric, le cancer du poumon, ça ne se transmet pas. La COVID, ça se transmet.
Je comprends.
Puis vous croyez pas, mais... vous croyez pas que les travailleurs de la santé ont un devoir d'exemplarité pour ce qui est de la vaccination? Ils sont vaccinés pour d'autres contre d'autres maladies l'an passant.
Je comprends. Oui, je comprends bien. Mais les gens qui sont vaccinés sont bien protégés. Donc, il faut à un moment donné, si on a confiance dans le vaccin, eh bien, on se dit, moi, je suis bien protégé. Et ce climat de peur-là que vous parliez juste avant, ce qui vous énerve, vous, est alimenté en grande partie par M. Legault, entre autres, qui dit que lui ne serait pas soigné, qui a peur. Il faut que tout le monde ait peur. À un moment donné, il va falloir vivre. Il va falloir vivre avec ce virus-là. Puis si on est bien protégé, eh bien, et que les autres ne le sont pas, je vois pas où est le problème. Je comprends pas. En quoi les non-vaccinés dérangent les autres, je comprends pas.
Ben, en fait,
personnellement, je comprends pas.
OK, vous comprenez pas. Je suis convaincue que ça va faire réagir nos auditeurs parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire ou qui hésitent à se faire soigner par des infirmières, des soignants qui ne sont pas vaccinés.
Et, pour quelle raison?
Ben, parce qu'ils ont peur, parce qu'eux, ils ont fait le choix de se faire vacciner. Ils ont pris le temps de se faire vacciner pour se protéger eux-mêmes, pour protéger les autres. Il y a une question de bien collectif, là, dans tout
mais
ça,
si
Frédéric.
Si on est bien protégé, en quoi l'autre qui n'est pas vacciné? En quoi il est un danger pour moi si mon vaccin est efficace à 90, 100%, 95? En quoi il met en danger ma santé? Moi, c'est ça mon point.
Est-ce que vous travaillez dans le réseau? Mais est-ce que vous travaillez dans le réseau de la santé, Frédéric?
Non, moi, je suis entrepreneur en construction.
Okay.
Et donc, mais là n'est pas le débat. Moi, je suis en santé, une chance pour moi. Donc, je suis relativement jeune. Je suis dans le début de quarantaine.
Mais la majorité des gens qui sont dans les soins intensifs actuellement, c'est des gens qui sont non vaccinés. Vous savez ça?
Je comprends.
Ouais.
Je comprends bien. Et, mais ce sont eux qui courent des risques pour leur santé. Ils ne mettent pas en danger les autres.
Ben oui, mais c'est parce que moi, si je suis doublement vacciné, je suis mieux protégé que quelqu'un qui ne l'est pas.
Ben oui, je comprends
bien.
Mais on a fait le choix en tant que société de soigner toutes ces personnes-là, d'accepter. On ne force pas les gens. Je prends l'exemple de la cigarette
Mais attendez.
Arrêter de fumer.
Non, mais
parce que.
Oui, mais on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. Mais la charge virale d'une personne qui est non vaccinée est plus importante qu'une personne qui est vaccinée. Ça, c'est un fait scientifique, là.
Je comprends.
Merci.
Je comprends, mais les gens sont protégés qui sont vaccinés. Donc, il faut, à un moment donné, donner du lousse.
OK. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Faut donner du lustre. On aurait pu continuer longtemps comme ça. Mais merci beaucoup, Frédéric. J'adore ça. J'adore. Vous vous exprimez, c'est exactement le but de cette émission. On va aller joindre maintenant Pierre Blain, notre invité, qui est président-directeur général Les Usagers de la Santé. Bonjour à vous, Pierre.
Bonjour, Nathalie.
Pourquoi vous appelez ça les usagers de la santé? Moi, je déteste le mot usager. C'est comme les préposés aux bénéficiaires. En France, vous savez qu'on les désigne sous le vocable de aide-soignante ou encore auxiliaire de vie. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors, vivement le jour, ça, je me permets une parenthèse, là. Vivement le jour, on va arrêter de nous appeler les usagers du réseau de la santé. On a l'air des numéros, vous ne trouvez pas?
Certains disent plutôt des vieilles voitures, mais vous avez tout à fait raison, sauf que dans la loi sur la santé, c'est le terme qui est employé.
Ah bon?
Donc, si on parle juste malade, ben, les malades, une femme enceinte n'est pas quelqu'un de malade, mais c'est une usagère du réseau de la santé. C'est dans ce sens-là que le terme usager a été mis en place.
Okay,
vous avez tout à fait raison,
ben,
il faut trouver quelque chose.
Effectivement. Bon, un jour. Pierre, tout d'abord, est-ce que vous croyez que vous représentez, je l'ai dit, les usagers du réseau de la santé? Est-ce que vous croyez que ceux qu'on appelle les récalcitrants de la vaccination dans le réseau de la santé vont aller se faire vacciner avec cette décision du ministre de la Santé?
Non. Là, on a essayé la carotte. La carotte n'a pas fonctionné avec les primes. On a essayé maintenant le bâton en disant on va maintenant vous empêcher de travailler. Ça n'a pas fonctionné. Je ne vois pas pourquoi ce serait OK le 15, puis ce serait mieux le 15 novembre. Moi, je ne pense pas que ces gens-là vont le faire. D'ailleurs, le précédent personne qui vous a parlé a
amené
des bons arguments. Il y en a des bons arguments. Sauf que la vaccination n'est pas à 100%. Quand on dit que la majorité des gens actuellement sont des non-vaccinés, la majorité, c'est pas 100%, ça. C'est 70-80%. Ça veut dire qu'il y a toujours un risque, même si on est vacciné. Par conséquent, il vaut mieux avoir le vaccin pour avoir le moins de risques possible, mais comme tel, on n'est pas à 100%. Et, entre autres, prenez l'exemple de la France, où aujourd'hui, justement, entre en application aussi la même mesure que le Québec a concernant, qui devait mettre en place et qui a reculé.
Oui, effectivement, vous avez raison. Marie souhaite réagir au propos de Frédéric, puisque vous y avez référé, Pierre. Elle est de Sherbrooke. Oui. Elle dit les non-vaccinés prennent de la place dans les hôpitaux avec 5 points d'exclamation. Frédéric ne comprend pas en quoi les non-vaccinés mettent en danger les autres. S'ils prennent une place à l'hôpital et qu'il y a du délestage, bien, ça met en jeu la santé des autres de cette façon. Il y a un effet domino. C'est pas dur à comprendre, nous écrit Marie. Effectivement, il y a un effet domino important.
Absolument.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous croyez avec votre expérience du réseau de la santé qui va se passer le 16 novembre au matin, Pierre Blain?
On va reculer encore. On va reculer.
C'est-à-dire?
On va reculer. Bien, d'abord, déjà en partant, quand on arrive au 15 novembre, là, c'est le moment où les hôpitaux ferment leurs lits pour la période de Noël. Donc, déjà en partant du 15 novembre jusqu'à peu près au 15 janvier, c'est déjà tout fermé. Donc, on ne pourra pas avoir plus de chirurgie, on ne pourra pas faire plus de choses. Donc, déjà, on arrive dans un flou à ce moment-là. Donc, encore une fois, on va pouvoir reporter en disant, bien, vous voyez, on a moins de services à faire. Le problème est plutôt, c'est que dès le début, on n'a pas pris les leçons de la première vague. On n'a pas mis en place des plans de contingentement. Et on nous a pas ressorti aussi qu'est-ce qui arriverait si jamais on arrivait dans une vague encore plus importante. Parce qu'il y a aussi un protocole qui est mis en place. Qui allons-nous soigner en premier? Et j'ai entendu une médecin qui a parlé, ben, il serait peut-être mieux de soigner les personnes plus jeunes et les personnes âgées qui ont déjà vécu une belle vie. Peut-être que ça serait préférable de ne pas les soigner. Alors, moi, c'est ça que je crains actuellement, c'est qu'on s'en aille vers un moment où on va être obligé de prendre des décisions semblables et qui, moi, me brisent le cœur.
Merci beaucoup, Pierre Blain, d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes PDG de l'association...
Les usagers
de la santé. Voilà, excellente journée à vous, Pierre Blain. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci. Réaction que je veux partager avec vous, je crois que c'est Dominique qui nous a écrit un peu plus tôt, là, en lien avec la proposition de Joanne Fayon. En fait, faisons faire les tests aux travailleurs avant leur quart de travail. Dominique nous écrit, pourquoi ne pas faire payer les tests par les syndicats? Parce que qu'effectivement, nous, bon peuple, écrit notre auditeur, pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour les tests? Bien, ça revient constamment dans vos commentaires. Alors, proposition constructive ce matin. J'adore, je vous remercie. Ça va certainement aider le ministre. Et je vais faire le suivi avec l'attaché de presse du ministre Christian Dubé, croyez-moi. On poursuit cette discussion. Les lignes sont pleines, comme on dit dans le jargon de la radio. Je vous écoute dans quelques instants.
Au réseau Cogeco, vous écoutez l'effet Normando, votre nouvelle tribune au Québec.
Réaction très, très nombreuse de votre part. Je vous remercie. Avant d'aller à Michel, on a reçu un courriel de Pierre-Luc que je vais vous lire. Mon opinion est qu'avec la stabilité de la quatrième vague, diminution des hospitalisations aux soins intensifs, l'augmentation de la couverture vaccinale, la troisième dose pour les personnes vulnérables et enfin pour la vaccination prochaine des 5 à 11 ans, j'ai la grande impression qu'un assouplissement des mesures sanitaires est à venir, ce qui fait en sorte que la nécessité d'obliger la vaccination obligatoire le 15 novembre risque d'être repoussée ou aboli. Moi, je pense que le 16 novembre ou le 15 novembre, là, il ne se passera pas grand-chose. Ça m'étonnerait que les travailleurs soient suspendus. Également, je vais vous lire un autre texto qui est entré. Je suis en santé, technologiste médical. J'ai tous les vaccins, même la polio qui n'existe plus. Le danger des personnes non vaccinées est que le virus peut plus facilement faire une mutation, ce qu'on appelle un accident de transcription, et que les vaccins n'ont plus la protection contre le nouveau variant et on recommence à zéro. Ça, c'est quelqu'un du réseau de la santé qui nous le dit, qui est technologiste médical. Je répète, le danger des personnes non vaccinées est que le virus peut plus facilement faire une mutation et que les vaccins n'ont plus la protection contre le nouveau variant et on recommence à zéro. Merci beaucoup d'avoir pris soin de partager votre vision des choses. On va aller joindre Michel. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Bon, premièrement, là, au sujet de... C'est drôle parce que tantôt, là, le sujet est parti après l'expert du syndicat. Excusez, là, c'est pas un oui. expert.
Le représentant.
Oui, bon. Là, après ça, ils ont tous nommé une bonne idée que à propos des tests. Là.
Oui.
Moi, j'ai une petite connaissance syndicale. Okay. Qui demande des tests?
Allez-y, répondez-nous. Vous êtes dans le milieu syndical. Ben,
je vous pose la question. Qui demande à passer des tests? Est-ce que c'est les employés non vaccinés?
Bien, ils n'auront pas le choix de le faire. Le ministre va l'obliger. Là.
Et ouais. Voilà. Le ministre, c'est l'employeur.
Oui.
Donc, automatiquement, il peut passer des tests aux heures s'il veut.
Oui.
Automatiquement, c'est lui qui le demande. Donc, c'est lui qui va le payer. C'est logique.
OK. Je comprends.
C'est pas l'employé qui demande à passer le test. Regarde, c'est
OK,
c'est
je comprends ce que vous dites. Ouais.
D'un côté, bon, le deuxième volet, là, on va arriver là, c'est qu'à un moment donné, d'un côté, il croit aux licornes, d'un côté, il croit aux dragons, puis là, il y a une guerre. Là. OK? Vous êtes double vacciné, vous croyez aux licornes. Nous, on est non pas vaccinés, on croit aux dragons. À un moment donné, c'est pas aussi simple que ça.
Ben, en passant, moi, je crois pas aux licornes, là, parce que là, vous semblez minimiser...
Et moi, je crois pas aux dragons. Ouais. On s'entend-tu qu'on n'est pas tous des extrémistes?
Oui, oui, je suis d'accord. Mais vous êtes pas vacciné, bon, puis vous êtes dans le réseau de la santé.
Moi, j'écoute juste 98.5, je lis juste le journal, j'ai pas Twitter, j'ai pas d'Internet.
OK.
OK? Donc, moi, je vous appelle parce que je vous apprécie. Au contraire, je trouve que vous êtes une des seules qui nous laisse parler.
Oui, allez-y.
Si on essaie de parler à François Lagacé, hier, il y a un commentaire qui a passé que j'ai pas aimé, Patrick Lagacé.
Oui.
Vous savez c'est qui les non-vaccinés, vous travaillez avec, vous savez quoi faire. On s'en va où?
Mais qu'est-ce que vous voulez dire ce matin, Michel? Expliquez-nous votre point de vue, là.
Moi, j'ai deux questions pour vous aider à comprendre les non-vaccinés qui battent. Pourquoi que ça ne changera pas le 15 novembre?
Oui.
J'ai une théorie là-dessus. Okay. Deux questions. OK? Vous, ça tombe bien. Je vous ai entendu cette semaine dire que vous êtes dans une des deux questions. Vous avez un vaccin mélangé.
Oui.
J'ai bien compris?
Oui.
Donc, le premier coup qu'ils vous ont dit, allez-y, vous avez été une bonne citoyenne, vous êtes allé, vous avez eu l'AstraZeneca.
Oui.
Après, ils vous ont dit, c'est pas bon.
Ben, c'est pas qu'ils ont dit que c'est pas bon. Ouais, ils n'ont pas dit ça de même, là, mais.
On s'entend, ouais, on peut jouer ses mots.
Mais personnalisez pas le débat, là, Michel. Personnalisez pas. Moi, je vous entends, vous, là, par rapport à la.
Question est là. Ben oui, mais tout part de là.
Oui.
Nous, là, on veut bien écouter le gouvernement. Vous l'avez écouté. Aujourd'hui, vous pouvez aller aux États-Unis, êtes-vous sûr?
Oh, mais allez-y, mais je vous écoute, Michel, parce que là, le temps passe vite, là.
OK. Mais là, s'ils décident que ça vous prend un troisième vaccin, bon, on peut s'éterniser sur les bonbons, c'est pas des bonbons, c'est des vaccins. Bon, déjà là, vous avez fait un choix. Aujourd'hui, vous avez certaines complications parce que vous les avez écoutées. Deuxième point, c'est là que je vais finir, ils nous disent d'écouter la science. La science, c'est qui? C'est pas Pfizer, c'est pas Horacio Aguda, le docteur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Moi, je me renseigne sur ce que vous dites, ce que le Journal de Montréal dit. J'ai encore lu. Mettons, je vais me faire vacciner demain. Et il est là, mon point, que le monde a des interrogations. L'Organisation mondiale de la santé, Pfizer, ils ont fait le médicament, le vaccin. C'est quand même une posologie. Quand vous prenez des médicaments, vous suivez la posologie. Si on vous dit pas d'alcool, vous n'allez pas vider une caisse de bière.
Conclusion, Michel? Conclusion? Oui, faut que je vous fasse conclure.
Que l'Organisation mondiale de la santé, Pfizer, ils reconnaissent tout. Il y a des études encore dans le Journal de Montréal la semaine dernière à l'effet que la première dose doit être espacée à minimum 8 semaines de la deuxième dose.
Okay.
Pour que le vaccin soit efficace à 100% et qu'il y ait moins de risques.
Parfait.
Pourquoi qu'au Québec, c'est 4%? Est-ce qu'on est fait différemment?
OK. Merci beaucoup, Michel. Malheureusement, je ne vais pas vous bousculer, là. Je vous ai donné beaucoup de temps, mais je dois conclure parce que le bloc pub arrive dans quelques instants. Ce que vous essayez de vous exprimer, finalement, c'est que il est légitime pour les non-vaccinés de s'interroger, d'avoir des interrogations par rapport à la façon dont les tests sont faits, par exemple. Enfin, bref, je comprends ça, je comprends parfaitement ça. Là, voilà la pause. Jean-Christophe, notre metteur en onde, va nous y conduire. Et on pourrait encore continuer très, très longtemps. Je poursuis ma lecture de vos courriels et textos. Puis on vous revient avec un autre sujet. Les motocyclistes, les automobilistes. Ben oui, c'est ça dans quelques instants.